On est encore dans la dynamique de la rentrée, hein. Je ne sais pas si vous le remarquez, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'annonces. On aurait presque pu faire un culte d'annonces ce matin, mais c'est bon, ça veut dire que l'Église, elle vit, qu'elle bouillonne. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on fait ensemble et ça, c'est chouette. Moi, je suis content de ça. Si on n'avait pas d'annonces, si on n'avait pas de choses nouvelles à vivre, je serais triste. Je ne serais peut-être pas là d'ailleurs. Mais c'est bon cette vie. C'est bon parce qu'on a des projets, parce qu'on rêve, parce qu'on fait des choses différentes et puis que on met tout ça ensemble et c'est ça la communauté, c'est ça l'Église, c'est ça la vie. Assemblée chrétienne de Marguerite, notre logo, vous le connaissez. Et puis une nouveauté, aimer, vivre, aller. Voilà la vision qu'on a voulu remettre, voilà la vision qu'on a voulu réécrire, pour pas pour cette année, hein, pour ancrer l'Église sur ces trois piliers. Là, aimer, vivre et aller. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué la vision de l'Église Connect à Montélimar que Joël a présentée. On est sur ces mêmes choses-là. Pourquoi on est sur ces choses-là? Sur le fait d'aimer Dieu, sur le fait d'adorer, nous aimer les uns les autres, d'être au service de notre ville et puis de vivre ensemble. Il y avait ces trois dimensions-là. Pourquoi? Bah parce qu'on ne les a pas inventées, tout simplement. Hein. On les a retrouvées, elles sont dans la parole de Dieu. Pour écrire ces trois verbes-là, on cherchait trois verbes d'intention pour fonder notre vision, ce sur quoi l'Église était portée. On a simplement regardé à Jésus. On a regardé à Jésus dans la parole. Et qu'est-ce que Jésus il a fait dans la parole? Jésus, il a aimé. Il a été un témoignage d'amour puissant. On y reviendra tout à l'heure. Il nous a appris comment aimer, comment nous aimer les uns les autres. Il nous a rappelé l'importance de tout donner à notre Dieu. Il nous a montré comment vivre, comment être ensemble, comment créer une communauté avec toutes les difficultés que ça représente d'être différents les uns par rapport aux autres. Il y a plus de chances que ça ne marche pas quand on veut faire quelque chose ensemble plutôt que ça marche. Mais voilà, il nous a donné des clés, il nous a montré comment vivre ensemble. Et surtout, il nous a aussi envoyé dans une mission. Il ne nous a pas juste dit, voilà, soyez là, soyez bien ensemble. Vivez reclus. J'ai vérifié reclure, c'est dans le dictionnaire. J'ai fait un message samedi dernier, ce sera un peu la suite de ce message-là. Ceux qui étaient au week-end de rentrée, on a vraiment vécu un super week-end. Et je vais aller un petit peu plus loin ce matin. Voilà, donc aimer, vivre et aller, ces trois dimensions qu'on veut rappeler. Peut-être juste le... Mais j'ai... Ça marche ? Yes, ça marche. Donc vous voyez, aimer, vivre, aller. Donc dans aimer, voilà ce qu'on met. Aimer Dieu. Nous aimer les uns les autres, aimer le monde. Je ne vais pas le commenter ce matin. Si vous voulez en savoir plus, le message est en ligne sur le site. Ça s'appelle « Aimer, vivre et aller ». Vivre ensemble, grandir ensemble, construire ensemble une communauté de disciples. Alors on ira un petit peu plus loin ce matin sur la notion de communauté de disciples. Je vous promets que je vais essayer d'être court. Et ensuite aller transformer les vies d'abord. D'abord les vies, puis les villes, les nations, par la puissance de l'Évangile. Amen. Amen. Et ce matin, je voulais démarrer en vous parlant de quelqu'un d'autre. Je voulais parler de Saul. Je ne sais pas si vous savez qui c'est Saul, hein, celui qu'on appelle aussi Paul, Paul de Tarse, qui était Saul avant de se convertir, avant de rencontrer Jésus glorifié. Donc Saul, pour vous le situer, il vient après la mort de Jésus, hein, dans les premiers temps de l'Église, dans ce premier siècle. C'était très jeune, hein, il a été amené par ses parents à Jérusalem et il a été confié à Gamaliel. Et Gamaliel, c'est pas n'importe qui, c'est, je dirais, la haute autorité du judaïsme de l'époque en Israël. L'impact de Gamaliel sur le judaïsme, il est phénoménal. Les condisciples de Saul, en fait, qui étaient disciples de Gamaliel aussi, sont des acteurs clés, si vous voulez, dans l'évolution du judaïsme et dans tout ce qui a été implanté derrière. C'est vous dire si Gamaliel, c'était quelqu'un d'important. Et donc, Saul, c'était ça. Saul, c'était, sur le papier, c'était le mec génial, quoi. C'était top. Il était jeune, il était fervent, il était zélé pour son Dieu, avec un vrai amour pour Dieu, hein, une très grande connaissance de la Torah. Il nous est dit qu'il était au pied de Gamaliel, qui buvait ses paroles. Et à l'époque, hein, on transmettait non pas des cours papier, on transmettait la loi de manière orale. Et donc le fait d'être au pied de Gamaliel, ça en disait long sur sa connaissance de la Torah, sa connaissance de la parole de Dieu pour les Juifs. Et moi, je crois que sa ferveur et son zèle, c'était un vrai zèle pour son Dieu. Un vrai zèle pour son Dieu. Un zèle contre l'Évangile, certes, mais un zèle pour son Dieu. Et ce n'est pas un Dieu différent qu'il a rencontré quand il a été à Damas. Donc pour vous resituer aussi l'histoire, Saul donc était tellement zélé qu'il allait dans les maisons, il allait dans les synagogues, et puis il mettait en prison tous ceux qui annonçaient Jésus, tous ceux qui témoignaient de Jésus crucifié, puis Jésus ressuscité. Hein, il s'était fait pour mission de lutter contre tout ça, donc il y en a qui étaient tués, il y en a qui étaient envoyés en prison. Quand Étienne a été lapidé, Saul était là, il était présent, il était sur place, et c'est lui qui tenait les vêtements des gardes qui lapidaient, c'est lui qui a récupéré les vêtements d'Étienne. Il approuvait ça. Saul, il a fait tout ça. Et donc, à un moment donné, il a été chez le souverain sacrificateur et il a demandé des lettres pour pouvoir aller à Damas, parce que Jérusalem, ça ne suffisait pas, il fallait aussi le faire ailleurs, parce que la bonne nouvelle de Jésus, elle se répandait hein, comme une traînée de poudre. Et donc, il a demandé des lettres pour aller aussi à Damas, pour là-bas aussi aller persécuter les chrétiens, les premiers chrétiens, les mettre en prison, lapider et toutes ces choses-là. Et donc, il a obtenu hein, ces lettres, hein, bien sûr. Et sur la route, en allant à Damas, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est qu'il a rencontré, Jésus. Et ce passage-là, dans Actes, il nous parle de ce qui manquait à Saul pour que Saul devienne Paul. Donc je vais vous le lire rapidement. Donc acte 9, pour ceux qui suivent, du verset 1 à 8. « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Et je trouve intéressant dans ce passage-là de voir que la conséquence pour Saul d'être confronté à Jésus qui est glorifié, c'est de perdre la vue. La conséquence d'avoir vu Jésus, c'est de perdre la vue. Et ça m'a parlé de ce qu'il manquait à Saul pour devenir Paul. Il lui manquait la vision. Il lui manquait une vision. Et je crois simplement que dans ce passage-là, Saul est devenu aveugle pour réapprendre à voir. Il a réappris à voir. Pendant 3 jours, il a été aveugle. Pendant 3 jours, il a été atteint de cécité. Il a simplement passé du temps à jeûner. Il n'a pas mangé et a prié. Et Dieu lui a parlé pendant ces 3 jours-là. Et Jésus est venu toucher sa vue. Jésus est venu lui apprendre à voir dans sa perspective à lui. Et c'est la même chose pour nous. Hein, sur le papier, on a nos dons, nos capacités, on a notre sagesse, même celle qu'on a réclamée à Dieu, le discernement, l'intuition, toutes nos compétences, toutes nos qualités personnelles, tout ce qu'on est. Mais la question que je vous pose ce matin, que je me pose aussi, c'est dans quelle perspective est-ce que je mets tout ça à profit ? Est-ce que je mets tout ça à profit dans une perspective qui est personnelle ? Est-ce que je mets tout ça à profit dans la perspective de bâtir une vie qui est pour moi, une vie bonne, mais une vie qui s'arrête à ce temps-là ici ? Ou est-ce que je mets toutes ces capacités-là, tous ces dons, dans une perspective qui est divine, dans la perspective de Jésus qui est devant ? On a parlé de « Toi, suis-moi », ce verset qu'on a remarqué au mur. Hein, Jésus lui dit « Toi, suis-moi ». Pourquoi ? Parce que Jésus, il est devant. Et donc, dans la suite de ce qui s'est passé, hein, de Saul qui était donc aveugle et qui a prié pendant 3 jours, on va lire la suite dans Acte 9, toujours 17 à 20. Ananias sortit. Donc Ananias, lui, il habitait à Damas. Il vivait là-bas et Ananias, c'était un chrétien et Dieu lui a parlé. Oui, c'est vrai que je ne voulais pas raconter ça. Donc Dieu, en fait, il avertit Ananias qu'on amène Paul à Damas et qu'il faut qu'il aille voir Paul pour, Saul pardon, pour prier pour lui. Donc Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, donc il est chez lui là, en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Gloire à Dieu. Il se leva et fut baptisé et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Wow, quel changement. Quel changement. Vous remarquez dans ce passage le « et aussitôt ». Et aussitôt. On l'a lu samedi dernier, hein, quand Jésus passe et qu'il interpelle Pierre et André qui sont en train de pêcher, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent tout et le suivirent. Quand un peu plus loin, ils voient Jacques et Jean et qu'il leur dit « Suivez-moi !» Aussitôt, ils laissèrent leur barque, leur père et le suivirent. Aussitôt. Et ça me parle sur le fait que répondre à l'appel de Jésus, suivre Jésus, ce n'est pas un processus. Je ne suis pas en chemin de suivre Jésus. C'est un choix radical, un changement de perspective. C'est pour ça que je parlais de perspective tout à l'heure. Je ne suis pas juste en processus de me tourner vers Dieu. Non. Ce processus-là, même s'il y a eu, on peut se tourner progressivement, il finit toujours par un choix radical, par une décision. On était au printemps, là, on s'est baladé dans les gorges du Gardon avec des amis. Et puis, dans le Gardon, il y a toujours des gens qui descendent avec un canoë. Là, et puis, on a vu un couple qui arrivait. On s'était arrêté, nous, au bord de la. On s'était arrêté sur une plage de galets pour prendre le goûter. Et puis, il y a ce couple qui arrive. Et puis, on les entend à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et puis, bah, ça n'a pas loupé. Ils sont allés au milieu et, ils se sont renversés. Donc, devant nos yeux, là, ils se sont retournés et ils se sont retrouvés dans l'eau. Et pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas pu faire un choix. Ils n'avaient pas été en capacité de décider s'ils allaient à droite ou s'ils allaient à gauche. Et combien de fois dans nos vies, c'est comme ça? Pas que pour le fait de suivre Jésus. Hein. Des choix. Des décisions, je vais à droite ou je vais à gauche. Sinon, bah au milieu, je me renverse. Je vous garantis qu'ils étaient mouillés et ils sont tombés 3 fois dans l'eau. Hein, je crois que c'est ça, hein, 3 fois. Et alors que le fait de suivre Jésus, c'est un choix radical, comme je disais, hein, c'est une décision. Au-delà de cette décision-là, il y a quand même un processus de tous les jours, c'est marcher à la suite de Jésus. Être un disciple, ça, c'est un processus. Parce que tout ne change pas comme ça. On l'a entendu, hein, Martine, le témoignage qu'elle a donné. Tout n'a pas changé comme ça. Tout n'a pas changé comme ça. Sa décision, elle était radicale et elle s'est retrouvée sur un chemin où elle avait besoin de grandir. Elle avait besoin de regarder à Jésus, de voir comme il était, de connaître son amour avec encore plus de profondeur. Et encore aujourd'hui, on a besoin d'aller creuser encore plus profondément dans la réalité de qui Dieu est pour nous. Et suivre Jésus, c'est ça, c'est un engagement qui est perpétuel, c'est chercher à le voir, et c'est pour ça que c'est primordial, parce que si on veut le suivre, on a besoin de le voir. Si je ne le vois pas, si je suis aveugle, si Véro se met à bouger dans la salle et que je ne vois rien, je ne saurais pas où elle est, si je reconnais son parfum. Mais j'ai besoin de la voir si je veux la suivre, j'ai besoin de voir Jésus si je veux le suivre. C'est une évidence que je dis, hein, parce que si vous êtes comme moi et si vous êtes honnête, je vois qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais moi, perso, je dis ok, mais moi, je ne le vois pas. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, je dis ok, mais je ne le vois pas. Il est où, Jésus? Il est où? Depuis que je suis petit, je suis quelqu'un d'extrêmement créatif, de très imaginatif, vous l'avez remarqué, et je suis en même temps quelqu'un d'extrêmement pragmatique dès qu'il s'agit de démontrer ou de parler de quelque chose. Et je me souviens que quand j'étais petit, donc ma famille, j'ai une partie de ma famille qui est juive et pied noir. Et donc, on m'a parlé de ça quand j'étais petit, de ma famille pied noir, qu'un tel dans ma famille était pied noir. Eh bien, pendant longtemps, je n'ai pas vu les pieds noirs. Pendant longtemps, Dans les réunions de famille, je vous assure, c'est vrai, je cherchais à regarder sous les pieds pour voir des pieds noirs parce que les miens, ils étaient blancs. J'avais besoin de voir. Et puis un jour, j'ai vu dans la voiture. J'ai compris parce que j'ai posé la question à mes parents. Mais ça m'a duré longtemps quand même. Je crois que j'avais 7-8 ans quand j'ai réalisé qu'on n'avait pas les pieds noirs dessous. Je m'imaginais qu'on était comme des pneus ou un truc comme ça. C'était vraiment... On a besoin de voir. Et il y a deux façons de voir Jésus. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est la façon dont on a redéterminé notre vision, la parole de Dieu. Hein ? Jésus est révélé dans l'Écriture. Il est révélé dans l'Écriture. Son caractère est révélé dans la parole de Dieu. Sa vie, sa mission, ce qu'il était, ce qu'il a proclamé, les vérités, le chemin sur lequel il nous met, c'est révélé dans l'Écriture. La parole. La parole de Dieu est le premier rail du pied que je pose quand je veux suivre Jésus. L'Esprit est le deuxième rail pour que ma vie elle soit équilibrée. Pourquoi ? Parce que l'Esprit me révèle la vérité de la parole. Ce n'est pas juste des mots, une connaissance. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça tout à l'heure, que c'était Marie, là, le témoignage que tu donnais, où ce n'était plus une connaissance de Dieu, mais une relation. Ben ça vient par l'Esprit. Et ça, c'est le cadeau de la nouvelle naissance. Joël a parlé de nouvelle naissance tout à l'heure pour Montélimar. Ce n'était pas juste qu'il y ait beaucoup de bébés dans l'Église. C'est que des gens renaissent, meurent à leur ancienne vie et vivent de nouveau en Jésus-Christ. Je vois ce que je peux sauter pour essayer de faire plus court. Suivre Jésus, donc on a dit, c'était un choix radical. Et ça demande forcément quelque chose. Ça demande de laisser. Ça demande de lâcher prise sur ce qu'on contrôle. Lâcher prise sur notre vie. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas moi qui suis en maîtrise de où je vais. Si je suis Jésus, je vais où il va. Et pas où moi, je vois. Et donc, il y a des choses aujourd'hui qu'on tient dans nos vies, qu'on contrôle, sur lesquelles qui nous-mêmes nous apportent du bien et qui ne sont pas forcément ce que je veux pour demain. Et quelque part, suivre Jésus de manière radicale, ce choix de changement de vie, ce changement de perspective dont je parlais tout à l'heure, ça implique aussi ça, d'être en capacité de lâcher prise sur le contrôle que j'ai sur ma vie aujourd'hui. On va aller plus loin hein, dans ce sujet-là. Pour moi, j'avais cet exemple-là en tête qui vous parlera peut-être. Je pensais à un tableau, un peintre. Hein, vous mettez deux peintres l'un à côté de l'autre, ils ne vont pas peindre tous les deux de la même manière. Ils ne vont pas utiliser les mêmes couleurs, ils ne vont pas utiliser les mêmes pinceaux, le même matériel, ils ne vont pas utiliser tout ça. Et imaginez que vous dites au premier peintre, maintenant tu laisses le deuxième faire ta peinture, ton tableau. À mon avis, ça doit être difficile à vivre pour le premier, parce que c'est pas forcément les couleurs qu'il aurait utilisées, c'est pas forcément le coup de pinceau qu'il aurait mis, c'est peut-être même pas le même matériel. L'autre, il va peut-être peindre à la truelle ou j'en sais rien, je sais plus comment on appelle ça. Il y a du lâcher prise, et cette image-là, elle m'a parlé pour moi parce que c'est un peu ça. Le tableau de ma vie que je peux peindre, moi, d'accord. À un moment donné, je laisse les pinceaux à Dieu. Ok, Jésus, vas-y. Ou dis-moi avec quelle couleur je peins. Maintenant. Et ces couleurs, elles sont dans la parole et dans l'esprit. Et c'est ce que Paul, il a fait aussi. Je parlais de Saul tout à l'heure. Saul qui est ensuite devenu Paul, une fois qu'il s'est converti. C'est ce que, on va l'appeler Paul maintenant. C'est ce que Paul a fait. Il a abandonné une grande carrière. Sincèrement, je parlais de Gamaliel, des condisciples de Paul, tout ce qu'ils avaient fait ensuite, la façon dont ils avaient influencé le judaïsme. Paul a laissé tout ça. Et quand il dit dans la parole, j'ai considéré tout ce qui était comme un gain, tout ce qui était un gain pour moi, je l'ai considéré comme une perte, ça a ce sens-là. Ça a ce sens qu'il était un de ceux qui allaient écrire l'histoire du judaïsme. Il était un de ceux qui allaient influencer l'histoire. Et il a fait un choix qui est radicalement différent. Il a accepté de connaître le rejet, il a accepté de connaître la souffrance, d'accord, au lieu de connaître la gloire dans le judaïsme. Donc il a perdu quelque chose. Et il y en a un autre qui nous a montré cette même chose, c'est Jésus. On l'a chanté hein, ce matin. Jésus, il a quitté sa gloire dans le ciel. Il a accepté de tout perdre tout. Et il n'avait pas besoin de nous. Il n'avait pas besoin de notre amour. Il n'avait pas besoin de nous prouver quoi que ce soit sur la terre. Il l'a fait par amour. Uniquement par amour. Lui qui était le créateur du ciel et de la terre, qui était la parole qui a donné vie à la lumière, qui a donné vie à la terre, qui a donné vie à l'univers, tout ce qui s'y trouve, à nous, il a accepté de tout perdre, de quitter la présence du Père, de quitter la gloire, de quitter toute son autorité pour venir vivre sur terre dans une dépendance totale au Père. Hein, il dit « Je ne pouvais rien faire que je ne voyais faire le Père. Je ne peux rien par moi-même sinon ce que le Père fait et m'ordonne de faire. » Il a choisi ce choix radical de tout laisser pour vivre une vie différente. Et puis, il n'a pas tout quitté pour venir comme un roi sur la terre. Il est venu comme un serviteur. Hein ? Il a été rejeté, il a été humilié, frappé, il a été tué pour nous. Mais il a ressuscité, amen, plus fort que la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité, il est monté au ciel et il s'est assis à nouveau dans sa gloire, dans la gloire du Père, et il règne en majesté, il est souverain. Nul ne peut contester son autorité. Nul ne peut contester son autorité. Mais quel exemple, quel message. Et pour moi, il y a deux enseignements de ça pour nous ce matin. En premier, c'est quel amour. Quel amour. Jésus, il s'est donné gratuitement. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'avait pas besoin de nous. Le fait de mourir sur la croix, ça ne lui apportait rien. Il n'avait pas besoin de ça pour pouvoir s'asseoir sur un siège d'autorité au ciel. Il avait déjà tout ça. Il l'a fait simplement par amour, parce que c'est son essence, parce que c'est l'essence même de notre Dieu, de la Trinité. Le Père, le Fils, l'Esprit est un Dieu d'amour. Rien d'autre qu'un Dieu d'amour. On en a parlé ce matin et c'est à ça qu'on revient. Par amour. Il n'a pas attendu quand il était sur la terre, il n'a pas attendu d'être suivi par les foules pour mourir sur la croix. Au contraire, hein, il était même plutôt rejeté. Il y avait seulement un petit groupe de gens qui le suivaient, un petit groupe de disciples qui croyaient à son message. Il n'a pas dit « Bon, c'est bon, si j'y vais, vous me suivez, je m'assure que vous veniez bien avec moi avant de mourir sur la croix. » Non, il est mort sur la croix alors que personne ne le suivait. Et il a ouvert une voie pour que d'autres suivent. C'est ça l'amour. Il n'avait pas besoin de nous. Et notre réponse à son appel, notre réponse à ce « toi, suis-moi », notre réponse à avancer dans ce que Dieu nous demande de faire, ça doit être rien d'autre qu'une réponse d'amour. Ça ne doit pas être une réponse de contrainte. Je suis obligé de reconnaître l'évidence que tu existes, ça me fait mal. Mais je le reconnais, non, ça doit aller plus loin que ça. Jésus, je t'aime, et c'est parce que je t'aime que je veux marcher pour toi. Parce que c'est dans cette relation d'amour à laquelle on est appelé. Et la deuxième chose, ce que Jésus a accompli sur la croix me dit ce matin, c'est la notion de l'humilité et de la dépendance au Père. Pour moi, on a besoin de laisser ce qui nous est cher pour suivre ce qui est cher à Dieu. C'est ça, ce changement de perspective. Et ça demande de l'humilité. Parce que sincèrement, on est capable de plein de choses. On est capable de plein de choses. On est capable d'avancer par nous-mêmes. On est capable de faire une église par nous-mêmes. On n'a pas besoin de Dieu pour ça. On est capable d'aller nourrir les pauvres. On est capable d'un milliard de choses, d'écrire des chants. On est capable de tout ça. Mais quelle vie il y a là-dedans ? Si ce n'est pas dans la perspective de Dieu. Quelle vie il y a dedans ? Il n'y a pas cette vie-là. Et si ce matin, il y en a plusieurs qui n'ont jamais fait la démarche de voir Jésus en tant que sauveur, celui qui est capable de racheter nos fautes, celui qui m'a aimé le premier, hein, si vous n'avez jamais réalisé ça, si vous n'avez jamais songé à cet amour parfait, plein, entier de Dieu, c'est facile. Jésus, il dit toi, 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 suis-moi. Et la réponse, c'est me voici, Seigneur. C'est tout. Me voici, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon Sauveur. Je t'aime, je te donne ma vie. Et piou, c'est parti, en route pour l'aventure. On n'est pas déçu, en tout cas moi je ne suis pas. Mais il y a quelque chose qui est difficile là-dedans, et ça vient aussi de notre culture française pour moi, c'est qu'on a une notion de la hiérarchie, une notion du chef qui est faussée. Pour nous, chef veut dire dominant, domination, dominateur. On est exploité, on n'a qu'à le voir en France, hein, le niveau de contestation qu'on a systématiquement sur nos politiques, sur nos dirigeants dans nos entreprises, sur le chef en France, beaucoup, pas qu'ici, hein, c'est celui qui est servi par les employés, c'est celui qui contrôle les employés. C'est ça le chef aujourd'hui. Et ça crée une culture dans laquelle on est dans la crainte finalement de laisser notre vie à quelqu'un d'autre. Et je pense que dans notre culture, un des freins au fait de dire « Ok Seigneur, je te laisse les rênes de ma vie, ok je te donne les pinceaux pour peindre sur ma toile, ok je lâche prise et je veux chercher à te suivre toi et non pas seulement faire ce que moi j'ai envie », il y a une crainte là-dedans qui vient du fait que le chef domine et contrôle pour lui-même. Remettons ça dans la perspective de ce que j'ai rappelé juste avant. Jésus est venu pour servir. Non pour être servi, mais pour servir. Jésus est venu par amour. Non pas parce qu'il avait besoin de quelque chose de nous, mais parce que nous, nous avions besoin de lui. Et Jésus, il inverse dans la parole de Dieu, dans son message, dans ce qu'on peut lire, il inverse cette notion qui est tordue chez nous du chef qui domine. Il inverse cette notion-là. Le chef est au service de, il porte, il encourage, il donne par amour, il donne sa vie pour sauver, pour envoyer. Moi, je viens d'une entreprise, sincèrement, où les gens travaillent chacun dans leur domaine, en silo. Hein ? Il n'y a pas, je regarde Nicolas parce que c'est un collègue de boulot, il n'y a pas de transversalité dans l'entreprise. On a du mal à avancer si on doit passer par plusieurs directions. On a du mal à avancer, pourquoi ? Parce que dans chaque direction, le directeur est tout puissant. Il est souverain sur sa direction et il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il contrôle, il domine, etc. Et c'est extrêmement difficile d'avancer. C'est extrêmement difficile d'avoir un climat même qui est paisible, qui est serein, qui est encourageant. Et le niveau de découragement des collaborateurs dans l'entreprise est interpellant. Interpellant. Et je suis convaincu que le management y est pour beaucoup. Je suis convaincu que cette fausse notion de la hiérarchie qui domine et qui contrôle, ça y est pour beaucoup. Alors je veux vraiment vous encourager ce matin. Jésus n'est pas celui qui dit « Toi, suis-moi » pour pouvoir faire de nous une marionnette et pour pouvoir contrôler tous les aspects de nos vies. Ce n'est pas ça. La Bible, elle parle du libre arbitre, de notre capacité à faire des choix, de notre capacité à avancer. Jésus, il dit juste, regarde où je vais et fais de même. Il nous dit dans Matthieu 11, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Pardon. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. L'invitation de Jésus, ce n'est pas l'invitation à une vie de labeur, à une vie de pénibilité, il faut se sacrifier, porter sa croix, ça doit forcément être dur, difficile, ça doit coûter. Non, si tu apprends, c'est ça qu'il nous dit, si tu apprends à me laisser devant, si tu apprends à me laisser porter la charge, tu verras combien me suivre, c'est doux, c'est facile, c'est léger, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas un poids. Et quand il est question du joug, dans cette culture-là, il y avait, si vous voulez, il y avait deux bœufs. Il y avait un vieux bœuf qui portait l'essentiel de la charge, et puis on mettait un joug sur eux, et à côté on plaçait un jeune bœuf. Et c'est ça la notion du joug à laquelle Jésus nous appelle. C'est « Viens, moi je suis le vieux bœuf, mets-toi à côté de moi, et puis je vais t'apprendre comment on marche. C'est moi qui porte la charge, c'est moi qui creuse le sillon, qui suit la route. Toi, tu te laisses simplement conduire. Et ta charge, ce n'est pas elle qui est lourde, c'est la mienne qui est lourde. Et c'est ça la notion du joug. C'est que le jeune bœuf marche dans la perspective de celui qui est plus vieux. Et c'est à ça qu'on est appelé. C'est libérateur parce que c'est Jésus qui est devant. Et c'est ça être disciple. Être disciple, c'est simplement accepter qu'on a un vieux bœuf à côté de nous qui nous montre par où on passe, qui nous montre comment on avance. Et on doit simplement reproduire ensuite, reproduire ça dans l'Église. Ce qu'on fait avec les enfants, c'est ça. On est ces vieux bœufs pour les enfants. Quelle image glorieuse, hein ? Non, c'est ça. Moi, quand je m'occupe des 10-14, c'est ça. Je suis un vieux bœuf pour eux. Demandez-leur, je suis un vieux bœuf. Mais je les prends à côté de moi et puis on avance ensemble. Et ce que je leur transmets, c'est voilà comment on marche, voilà quelle est là. Voilà quelle est la vie, voilà quel est le sens de la vie. Quelles sont tes questions ? Regarde, non, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on avance. Je suis le vieux bœuf pour eux. Et je veux lancer un appel ce matin, on a besoin de vieux bœufs. On a besoin de vieux bœufs au niveau des enfants. Au niveau des 10-14, je disais, on n'est que 2 moniteurs, il en faudrait 4. Il y a besoin de vieux bœufs pour s'occuper de ce groupe-là. Alors si vous aussi, vous voulez être un vieux gros bœuf, venez. Venez. Venez voir Pierre, d'accord ? Pierre prendra. Non mais c'est important. C'est ô combien important. C'est ça que nous a enseigné Jésus. Être disciple, c'est suivre et reproduire. Ce que Jésus a fait pour moi, je le fais pour l'autre. Je suis désolé, je dépasse un peu l'heure. Ce dont a parlé Thomas aussi, les groupes de vie, c'est ça être disciple, suivre et reproduire. Quand on lit dans Actes, les premières années de l'Église, d'accord, il est toujours dit, tous les jours, dans le temple et dans les maisons. Au temple et dans les maisons. Au temple et dans les maisons, en permanence. Et c'est ça la vie de communauté à laquelle on veut appeler. C'est-à-dire que on ne veut pas simplement vivre de beaux dimanches ensemble, on ne veut pas juste célébrer, avoir du plaisir à se retrouver ici, nous encourager. Ça, c'est la conséquence de ce qu'on a pu vivre ensemble, en petits groupes, dans nos maisons. Dans les maisons. Souvenez-vous, Paul, il allait chercher les chrétiens dans les maisons, parce que c'est là qu'ils étaient, c'est là qu'ils vivaient, c'est là qu'ils prenaient soin les uns des autres, c'est là qu'ils partageaient le pain ensemble, qu'ils faisaient un bon repas, qu'ils avaient du plaisir à être les uns avec les autres, qu'ils s'écoutaient, qu'ils priaient les uns pour les autres, qu'ils allaient plus loin ensemble. Et les groupes de vie ou les cellules, il faudra qu'on voit comment on les rappelle, mais c'est ça, c'est démultiplier la vie de l'Église dans nos semaines, parce qu'on a besoin de nous retrouver, on a besoin de grandir dans nos dons. Moi, je me souviens, quand je pense aux premières années de l'Église, de Marguerite, et donc ça fait longtemps, ce dont je me souviens le plus, c'est les expériences dans les cellules, dans les groupes de vie, dans les maisons, ce qu'on a pu faire, les premières responsabilités que j'ai pu prendre là-dedans, des personnes que j'ai connues parce que j'étais dans le groupe de vie, que j'ai appris à connaître, avec qui j'ai eu du plaisir à être, qui sont plus vieilles que moi, d'autres qui étaient plus jeunes que moi, et avec qui j'aurais jamais passé du temps si je venais simplement là et qu'on était tous, parce qu'on est nombreux et qu'on ne peut pas tous passer du temps les uns avec les autres chaque dimanche, sinon on finit à 14h chaque dimanche. On a besoin de cette démultiplication de la vie de l'Église en semaine. On a besoin de ça. On a besoin de se nourrir les uns les autres en semaine. Alors je vous encourage vraiment, quand on va afficher les groupes de vie, je vous encourage vraiment à aller voir où est-ce que vous êtes inscrit, est-ce que ça vous convient, si vous voulez changer, mais faites un choix radical et joignez-vous au groupe de vie. Vous verrez que c'est excellent. Excellent. J'espère que je vous donne envie. Il y a un jeune, vous savez qu'on fait une formation à Paris là, avec les responsables régulièrement. Il y a un jeune que j'ai retrouvé là-haut qui était dans notre cellule pendant 2 ans, quand on faisait une cellule chez nous avec Véro, avec les Bastiens aussi. Et puis il est venu me voir. Il me dit oh, génial que tu sois là, etc. Tu sais pas quoi, cette année, je fais un groupe de vie dans ma maison avec ma femme. J'ai dit génial, c'est super, excellent. Il me dit et tu sais quoi, on va faire comme vous aviez fait, tellement c'était génial. Je me dis mais quel impact ! Quel impact, un groupe de vie. On n'est pas en train de parler du culte du dimanche, on est en train de parler d'un groupe de vie en semaine qui a eu un impact fou dans la vie d'un nombre de jeunes Nous-mêmes, avec Véro, on est étonnés parce que c'est des jeunes qu'on voyait dormir sur leurs coussins. Sincèrement, quand on disait on va prier, hop, ils prenaient les coussins et voilà. Mais on ne regarde pas aux apparences. Jésus, il écrit une autre histoire dans les cœurs que celle que nous, on voit. Et j'aimerais vraiment finir maintenant. Finir avec ça. Finir avec ce que Jésus il a fait en premier avec ses disciples. Si on parle de disciples, qu'est-ce que Jésus a fait en premier ? Il a passé du temps avec eux. Il a passé du temps avec eux. Samedi, j'ai parlé de ce verset hein, dans Marc. Il monta ensuite sur la montagne. C'est Jésus. Hein. Il appela ce qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Pour les avoir avec lui et pour les envoyer. Mais d'abord, pour les avoir avec lui. C'est là tout ce que j'ai dit ce matin. Vous pouvez tout oublier si vous retenez une seule chose. Être avec lui. Passer du temps dans sa présence. Développer cette intimité, cette relation pour apprendre à le voir, pour apprendre à le suivre, pour apprendre à grandir, pour nous laisser nourrir et encourager de ce qu'il dit sur nous, de combien il nous aime, combien il est fier de ce qu'on fait, pour apprendre à aimer ce qu'il aime, pour apprendre à détester ce qu'il déteste. Ça ne vient que dans l'intimité. Quand j'ai épousé Véronique, je ne savais pas encore tout ce qu'elle aimait ou tout ce qu'elle n'aimait pas. Je ne savais pas ce qu'elle détestait, ce qui la faisait rire, ce qui la faisait pleurer, ce qui l'émouvait au plus profond d'elle-même, ce qui l'exaspérait. 11 ans de mariage m'ont permis de découvrir une partie de ces choses-là. Mais pourquoi ? On a passé du temps ensemble. Et de ce temps qu'on a passé ensemble, je peux le dire aujourd'hui, je connais Véro comme personne d'autre ne la connaît, même ses parents. Personne ne peut connaître Véro comme je la connais. Personne ne me connaît comme Jésus me connaît. Et je veux nous encourager. Mettons Jésus en priorité dans nos vies. Mettons le fait de passer du temps dans sa présence en priorité dans nos vies. Nourrissons-nous de la parole, nourrissons-nous de louanges, nourrissons-nous de ce qu'on est ensemble les uns et les autres, parce que c'est tous ensemble que nous sommes le corps de Christ, que nous révélons qui est Jésus. Alors oui, passons du temps dans sa présence pour devenir des disciples et chaque jour aimer, vivre et aller. Ouais, je voudrais juste finir par prier. Merci Jésus pour ces plans parfaits que tu as pour nous, Seigneur. Oh, combien c'est bon de se dire qu'on est à ta suite, Seigneur. Oh, combien c'est bon de se dire que tu es devant, Seigneur, que c'est toi qui écris l'histoire, Seigneur, que c'est toi qui es le maître de toutes choses, Seigneur. On veut dire ce matin que oui, nous sommes à ta suite, Seigneur. Nous avons fait un choix radical d'être à ta suite, Seigneur. C'est toi qui es en contrôle, Seigneur, de nos vies, Seigneur. Nous voulons marcher à ton rythme, Seigneur, aimer ce que tu aimes, détester ce que tu détestes, Seigneur, nous laisser imprégner de ce que tu es pour déteindre dans ce monde, Seigneur, de ta vérité, de ton amour, Jésus. Qu'il s'écrive encore dans nos cœurs, Seigneur, que pendant cette semaine, tu puisses nous travailler, nous remuer encore, Seigneur, et que nous soyons encouragés de tout l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Je te remercie vraiment pour notre communauté, pour sa richesse, Seigneur, pour sa différence, sa complémentarité et toutes les promesses que tu as pour nous, Seigneur. Nous voulons vraiment nous mettre à tes pieds et te glorifier, te rendre gloire de ce que tu es au milieu de nous et de ce que tu veux faire avec nous. Amen. Très bon dimanche à tous.